Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le corps de la femme est au service de la communauté. Donc le problème, c'est pas qu'elle jouisse, on s'en moque royalement. Le plus important, c'est qu'elle fasse des enfants. Donc elle n'a pas besoin de clitoris pour faire des enfants.
120 000 filles et femmes pourraient avoir été excisées en France. Plus de 200 millions de femmes dans le monde, notamment sur le continent africain et en Indonésie. L'excision est une mutilation des organes génitaux féminins. On coupe, on racle, parfois on brûle, pour enlever le clitoris, les petites ou les grandes lèvres. Des mutilations génitales voulues par les familles pour leurs filles, des mutilations qui tuent, qui entraînent de nombreuses difficultés, maladies pour celles qui les ont subies, sans parler du traumatisme psychologique. Dans cet épisode de Tout s'explique, on parle de ces violences avec...
Je m'appelle Alimata Fofana, je suis écrivaine et auteure, française originaire d'un ailleurs.
Est-ce que ça vous blesse ou pas si je vous dis cet ailleurs vient de l'Afrique, des Afriques ?
Non, ça ne me blesse pas du tout, parce que c'est une réalité. Mais je trouve que, de prime abord, rencontrer un individu et de lui poser la question « Mais t'es française, mais originaire d'où ?» Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. C'est pour ça que, quand on me pose la question de prime abord, je réponds d'un ailleurs et on me dit « Mais où ?» Je dis « Où tu veux ?»
Et vous êtes auteure, notamment, d'un livre qui vient de sortir aux éditions du Rocher, « À l'ombre de la cité Rimbaud », un livre qui fait intervenir une héroïne, Maya. Il y a aussi sa famille, il y a aussi sa sœur, Machelle, qui sont dans cette cité Rimbaud, en banlieue parisienne. Sa famille est originaire du Mali. Elle grandit en France et à l'âge de 6 ans, va l'emmener à Bamako.
Maya, elle se rend en vacances pour la première fois au Mali, donc elle est vraiment très contente. La mère a décidé de faire subir une excision à sa fille. Et comme elle sait qu'elle est en totale confiance avec sa sœur, donc elle envoie sa sœur avec sa fille chez l'exciseuse. Maya, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on lui demande de retirer son short, puis sa petite culotte. Et à partir de là, c'est là où le cauchemar commence, où dans le livre, ce que je raconte, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent et qui...
Écartèlent.
Et tiennent Maya, ouais, c'est ça. Les jambes et également les bras. Sa tante arrive et lui tient la tête. Et c'est là où Maya subit l'excision de cette vieille femme qu'elle ne connaît pas.
L'excision, on va en parler. C'est une mutilation génitale sur le sexe féminin. Ça peut être couper le capuchon du clitoris et le clitoris. Ça peut être faire cette opération et aussi couper les petites lèvres. Ça peut être aussi de couper les grandes lèvres. Ça peut être aussi l'infibulation, c'est autre chose.
Qu'on trouve plutôt en Afrique de l'Est.
Qui consiste à soit cautériser, soit racler, soit couper aussi. Et ensuite, coudre la vulve et ne laisser qu'un petit trou pour évacuer les fluides. Et quelles sont les conséquences de l'excision, des excisions ?
Les conséquences sont multiples. Elles sont physiques et psychiques. Pour les bébés ou les petites filles qui subissent ça, il y a un risque de mort. Il y a des personnes, des jeunes filles ou des bébés qui se vident de leur sang. C'est fait à vif sur des petites filles. Il y a des accidents très graves et des accidents mortels. Il y a aussi comme conséquence des problèmes d'énurésie, des problèmes aussi au moment de l'accouchement. Ou des femmes qui vont avoir de très très grosses difficultés à accoucher par voie basse, des risques pour elles et pour le bébé. Et aussi des conséquences liées au fait que lors de relations sexuelles, elles peuvent avoir des douleurs, les femmes, à cause de l'excision, comme c'est fait de manière brutale. Et parfois, au niveau de l'orifice vaginal, il se rétrécit davantage. Parfois, c'est ça aussi qui fait que lors de relations sexuelles, certaines femmes ont mal. Et après, il y a de grosses séquelles psychiques sur la question du corps, sur son rapport à son corps, sur comment on se perçoit.
Pendant des dizaines et des dizaines d'années, Maya va faire le choix aussi de la reconstruction, de l'opération pour reconstituer un clitoris. Sur le temps de la réparation, ça peut durer des années et des années.
La réparation chirurgicale, elle se fait très rapidement. En une heure, c'est fait. Mais le travail psychique, c'est un travail qui est sur le temps long parce que c'est un travail de déconstruction pour reconstruire. Si on vous a élevé en vous disant comme Amaya que ton corps est sale et qu'il faut le cacher, c'est très compliqué. Hop, à 25 ans, hop, hop, hop. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, c'est comprendre et de se dire que c'est un point de vue, c'est un chemin, mais qu'elle, en tant qu'individu, elle a le droit de penser autrement. Et c'est ça qui est très, très compliqué parce que souvent, les gens ne s'autorisent pas à penser autrement.
En France, environ, parce qu'on n'a pas de chiffres, environ 120 000, 125 000 petites filles, adolescentes, femmes, sont excisées. Il y a des politiques publiques pour lutter contre l'excision, cette pratique qui est strictement interdite en France et passible de 15 ans de prison.
Oui, il y a une circonstance aggravante, c'est violence sur mineurs moins de 15 ans. En plus, avec un lien filial.
La tante, la mère. Et avec la pandémie de Covid-19, les confinements, les mutilations sexuelles sont en hausse. Pas qu'en France, il y a aussi
dans
le monde entier, environ, parce que le chiffre là aussi n'est pas très précis, environ 200 millions de femmes, petites filles, adolescentes, sont excisées, notamment dans 27 pays africains, mais aussi en Indonésie, pays musulman le plus grand du monde, le plus peuplé du monde, mais aussi en Irak ou encore dans les Maldives.
En Égypte également, le taux est aussi très important de femmes ayant subi l'excision.
Ces mutilations, elles perdurent grâce au silence, à la peur du candidaton, à la peur que cette fille soit impure.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les candidatons prennent une place très importante. Dans l'environnement que j'ai décrit dans ce livre, je montre que le corps de la femme est au service de la communauté. Donc le problème, ce n'est pas qu'elle jouisse, hein. On s'en moque royalement. Le plus important, c'est qu'elle fasse des enfants. Donc elle n'a pas besoin de clitoris pour faire des enfants. Donc son corps est utilitaire. Et c'est vrai que sur les mutilations sexuelles faites aux femmes, il y a eu une augmentation liée au Covid, liée à l'enfermement, hein, parce qu'on a bien remarqué que les violences intrafamiliales avaient augmenté. Et que j'en avais discuté avec Isabelle Gillette-Faye du GAMS, elle me disait également que à cause du confinement, certains immigrés qui travaillent ici n'ont pas pu travailler. Et ce sont ces immigrés, ils envoient de l'argent au pays. Donc même les femmes qui ont arrêté d'exciser se sont mises à exciser pour gagner de l'argent. Dès qu'il y a un enfermement, dès que les familles se recroquevillent sur elles-mêmes, ça a des conséquences terribles pour les filles. Surtout pour les filles, quand il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. C'est les premières qui sont en danger, ce sont les filles.
Et le silence tue.
Le silence, exactement. C'est pour ça que pour moi, c'était important. J'en avais discuté avec une cousine en disant « Ah, mais t'aurais pas dû écrire ». Et je lui avais dit « Mais si moi, j'écris pas, qui est-ce qui va écrire ? Si nous, les premières victimes, nous sommes pas en mesure de dire les choses, mais qui est-ce qui va dire ? Personne va parler pour nous. » Alors, ça se répète parce qu'on est toujours dans les non-dits. C'est le fait de parler que nous, en tant que jeunes filles ayant subi l'excision, qu'on ose parler à nos mères. On peut croire que c'est basique, mais non, le tabou est tellement fort dans nos familles qu'on n'ose pas en parler, même entre sœurs. Alors encore moins à nos mères. Le fait de parler des complications qu'on a vécues dans notre corps, dans notre chair, à notre mère, et aussi de faire le lien entre ce qu'elles, elles ont vécu et l'excision. C'est leur permettre de sortir de l'appartement familial, d'échanger avec des personnes qui vont leur apporter un autre regard.
Vous avez parlé des associations, vous avez parlé d'ailleurs du GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Vous avez donné votre voix à une association.
Oui, c'était avant l'été, parce que vous savez, même si les familles ne font pas exciser ou ne font plus exciser leurs petites filles en France, c'est souvent lors de vacances au pays, c'est là que les petites filles subissent là. Donc l'association Excisons, parlons-en, ils m'ont demandé de prêter ma voix, donc j'ai accepté pour sensibiliser à cette question.
Pour finir sur Maya, son espace de liberté, c'est l'école.
Exactement. Elle découvre un autre monde, l'opportunité de voir qu'un ailleurs est possible, malgré le fait qu'elle soit en banlieue parisienne. Et il y a cela, mais il y a aussi Céline Dion.
Eh bien oui, on n'en a pas parlé de Céline Dion. Et on pourrait refaire un nouveau podcast juste sur votre passion et la passion de Maya.
Ah oui, mais là, on peut en faire plusieurs podcasts sur Céline Dion. C'est vrai que pour moi, ça a été... Je me suis dit, je vais vraiment utiliser ce que j'éprouve pour cette chanteuse à Maya, parce que moi, ça m'a énormément aidée. Moi, quand j'avais 7 ans, je regardais par la fenêtre et j'écoutais Céline et je me disais... Je ne savais pas comment, mais je me disais, je vais avoir un avenir meilleur. Mais j'étais convaincue de ça.
Alors, vous l'avez dit dans d'autres médias, donc on joint notre voix aux autres médias pour faire cet appel à Céline Dion pour que vous la rencontriez.
Ah oui, alors ça c'est le rêve de ma vie, de rencontrer Céline Dion. Et je pense qu'elle serait touchée de savoir à quel point cette jeune fille que j'étais au fin fond de la banlieue parisienne, on pariait pas une cacahuète sur nous. Et ben, elle est sortie de cet environnement malgré la cicatrice énorme que je porte en moi.
Céline, si tu nous écoutes, fais signe.
Merci à Alimata Fofana pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour nous écrire, une seule adresse, audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.